J'ouvre la Bible avec vous dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. Il y a aussi Matthieu, mais choisissons Luc. Il y a des petites différences. Et nous allons regarder la tentation de Jésus-Christ pour éclairer, comprendre nos tentations. Luc, chapitre 4, et au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Je crois qu'il faut prier devant ce texte, qui est quand même assez mystérieux. Éclaire-nous, Seigneur, donne-nous cette force qui était en toi, dans la tentation. Éclaire nos cœurs, nos chemins, parce que nous avons besoin que tu ouvres nos yeux sur les manœuvres de l'adversaire envers chacun de nous. Et Seigneur, délivre-nous du malin. Amen. La tentation de Jésus. Il y a quand même des mystères sur l'influence du diable sur nous. Je vais m'en tenir à l'Écriture. Je ne sais pas tout. Quelle est sa manière d'agir? Quel piège nous envoie-t-il? Comment nous influence-t-il? On ne sait pas tout. Rappelez-vous, c'est un ange de lumière. Je pense que c'est dans la tentation qu'il est surtout l'ange de lumière. Parce que les tentations, on les voit agréables. Même si au bout d'un moment, on commence à se débattre, mais ce n'est pas des combats pour nous faire du mal, apparemment, mais c'est pour nous conduire à quelque chose de plus fort, de plus beau. Ce texte, le texte de Matthieu, contient des mystères. Mais je crois que Jésus, dans ce désert de la tentation, nous a donné un exemple pour que nous fassions comme il a fait. Je crois qu'il nous montre comment nous devons combattre contre toutes les tentations qui traversent notre tête, nos yeux, nos esprits. Mais le combat de la tentation, le voyons-nous bien? Est-ce que ce matin, il ne faudrait pas que nous rappelions que nous sommes dans toute notre vie tentés pas seulement quand nous étions dans le monde, mais aujourd'hui et encore demain. Est-ce que nous discernons les tentations ? Ou pour nous, alléluia, tout va bien. Bien sûr, on peut se poser des questions, mais comment se fait-il que le diable, qui a été vaincu à la croix, amen, qu'il ait encore un pouvoir sur nous ? Et dans la tentation, on se pose des questions, mais Seigneur, est-ce que tu t'es retiré de moi ? Comme on dit parfois, à tort, je ne sens plus ta présence. Tout cela, c'est notre imagination dans la tentation. Je vous rappelle, en lisant ce texte, que la tentation, elle vient même dans les moments de communion avec le Seigneur. En plein culte. Quand vous êtes en prière, quand vous lisez la Bible, quand vous servez Dieu, la tentation, elle ne s'occupe de rien. Elle vient. Enfin, c'est le diable. Et ça nous trouble. Combien de gens, de jeunes m'ont dit, quand je prie, j'ai des pensées terribles dans ma tête. J'ai des combats intérieurs. Même des pensées obscènes dans ma tête. La tentation, ça existe. Je vous rappelle que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Jésus a été tenté en toutes choses ». Vous l'avez lu, Hébreux, chapitre 4, verset 15. C'est-à-dire, il a été tenté dans tout ce qu'il a vécu. Bon, il n'a pas été tenté dans tous les péchés de la terre. Il n'a pas été tenté de faire sauter une tour à New York, par exemple. Mais dans tout ce qu'il a vécu, il y avait le diable qui était sous son pied, pas loin, pour le tenter. Et le diable reviendra dans tout son ministère, et surtout à la croix. Mais là, Jésus lui écrasera la tête. Alléluia. Mais quand on lit l'histoire de la croix, on ne voit pas toujours très bien que quand les gens disaient, bah oui, comme au désert, « Si tu es fils de Dieu !» C'était Satan qui le tentait au plus haut point. Alors il y a pour moi dans la Bible deux grandes tentations, au désert et sur la croix. Au désert, le diable lui dit, « Tu peux tout, profite de tout. » Remarquez, il nous dit la même chose, hein. « Profitez de tout, allez !» Amusez-vous. Et à la croix, le diable lui dit, surtout, ne souffre pas. Épargne-toi. Montre qui tu es. Sauve-toi toi-même. Remarquez, il nous dit la même chose. Va pas dans ce sentier de souffrance. Tu ne vas pas être à l'aise. Tu vas pleurer. Tu vas être mis de côté. Attention. Il nous dit la même chose. Ce qu'il a dit à Jésus, il me le dit, et à vous aussi. Ces deux grandes tentations, profite de tout, ne souffre pas, sont sur notre chemin, chaque jour. Jésus est dans le désert. Vous savez, il y a des personnes qui ont voulu fuir les tentations de la ville, dans tous les siècles. Parce que je ne supportais plus de voir ce péché qui opprime, qui est étalé sur tous les murs. Et ils ont cherché la solitude à l'abri de la tentation dans le désert. Eh bien, peut-être qu'ils ont oublié que Jésus a été tenté dans le désert. Que ce soit dans la solitude du désert, que ce soit au milieu du monde, que ce soit dans la ville sainte, pour nous on dirait dans l'église, hein, à Jérusalem, bon, ça représente un peu l'église, partout la tentation entre. Et personne n'en est épargné. alors on ne peut pas la fuir. Parce que partout où je vais, j'emporte avec moi mon cœur et mes pensées. Et partout, le diable est là pour nous envoyer des flèches empoisonnées, enflammées. On ne peut pas la fuir. Ça fait partie de notre condition humaine. Sur la terre, il faut qu'on dise ben, qui on est, de quel bois on est. Si on aime le Seigneur, oui ou non. Si vraiment on a la foi quand la terre va mal, quand notre vie va mal, oui ou non. Si on est fidèle à lui dans les jours bons et dans les jours mauvais, oui ou non. Sur la terre, on est là pour dire ce que nous avons au fond du cœur. Alors partout, on va être tenté. On ne peut pas la fuir, mais il faut la combattre. Et pour moi, chaque tentation, c'est un désert à traverser. Mais attention, si nous avons des tentations, certes, mais de nous-mêmes, je vous en prie, ne nous exposons pas aux tentations. N'allons pas flirter avec la tentation. Ne choisissons pas des tentations, des chemins où il y a forcément un piège. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, ne nous laisse pas entrer. Ne nous induis pas, mais la traduction, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, mes sœurs, mes frères, le Seigneur a été tenté en toutes choses, de toute manière. Littéralement, il est dit dans le chapitre 4 de Luc, après avoir achevé de le tenter de cette manière, après avoir achevé de le tenter. Ce qui veut dire que le diable ne s'arrêtera pas avant qu'il ait terminé son travail. Jusqu'au bout. Nous ne l'influencerons pas avec des belles manières. On ne peut pas influencer le diable. On ne peut pas, avec la parole seulement, lui résister. Ce n'est pas vrai. Jésus a résisté avec la parole de Dieu. Il va jusqu'à l'achèvement de son travail. Jusqu'au bout. Au désert, ça a été 40 jours. Sans cesse. C'était terrible. Hein. Sans cesse, le diable a utilisé toutes ses ressources, tous ses pièges, toutes ses séductions, toutes ses manœuvres, tout. Donc on voit bien que le diable, il a quand même une détermination, il a un plan. Et on voit ce plan dans l'évangile de Luc et de Matthieu. Dans la tentation, on voit qu'il tente dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair, dans l'orgueil de la vie. Comme Ève, comme vous, comme moi. L'apôtre Jean dit dans son épître que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, tout cela vient du monde, vient du mal. Il le dit, c'est un peu le plan d'attaque de Satan envers nous. Satan ne change pas, comme le serpent. Il change de peau, mais il ne change pas le serpent. Toujours le même. Et avec Ève, il a dit, regarde comme ce fruit est beau, convoitise des yeux. Regarde comme il est agréable à manger, convoitise de la chair. Et il va t'ouvrir l'intelligence. Ève, parce que tu n'es pas intelligente. Va t'ouvrir l'intelligence. Oui, il ne parle pas comme ça, vous savez. Il ne dit pas que vous n'êtes pas intelligent. C'est un séducteur. Il ne vous prend pas, rebrousse-poil, pardonnez-moi l'expression. Que cherche Satan? Il cherche à ce que Jésus oublie la foi, à ce que Jésus manque de foi, à ce que Jésus abuse de la foi. Jette-toi du haut du temple. Il nous tente sur la relation que nous avons avec Dieu. Profite de ta foi, allez. Tu n'as pas la foi. Tu manques de foi. Toutes ces tentations sont les nôtres aujourd'hui. Je vois que le diable se sert de tout. Il fait feu de tout bois. Il s'est servi de la fin de Jésus. Il s'est servi de son ministère. Si tu es fils de Dieu, c'est le seul dans l'évangile qui dit ça au début. Fils de Dieu, personne ne le disait. Il s'est servi de Jérusalem. Il s'est servi du temple. Il s'est servi de la Bible. Il est écrit. Il s'est servi des apôtres. Pierre. Thomas. Il s'est servi également de Judas. Il se servira de tout. Nous devons non pas nous méfier des autres. Quoi qu'il faut être très prudent avec tous, ceux qui nous entourent. Mais il faut discerner les manœuvres du diable pour nous arrêter. Mais qu'est-ce qu'il veut, Satan, sur notre bien-aimé Sauveur, qu'on a du mal à s'imaginer dans le désert, 40 jours sans manger, luttant contre le puissant adversaire du royaume de Dieu? Eh bien, Satan, il veut que Jésus se montre comme le Messie charnel. Pas le Fils de Dieu qui vient pour sauver les âmes du péché et nous réconcilier avec le Père et nous conduire dans la gloire éternelle, mais un Messie qui prend en main le gouvernement, le royaume, qui donne à manger aux gens et qui fasse ainsi son ministère sans souffrir. C'est subtil, hein ? Sans la croix. Et qui fait des prodiges pour convaincre, afin que finalement nous n'ayons pas à croire sans voir. Il veut que Jésus plaise aux Juifs de son époque en étant un Messie charnel. Ils ont toujours attendu ce Messie-là. Eh bien, vas-y, mais vas-y. Tu peux tout transformer, tu peux tout utiliser, et tu vas passer, tu vas être élu à l'unanimité. Quand vous êtes entouré de pièges, quand vous sentez autour de vous qu'il y a des dangers, quand vous êtes abattu dans votre cœur, quand vous êtes démoralisé, attention, Satan rôde comme un lion rugissant. Regardez à Jésus dans le désert. Amen. Regardez à Jésus. Et l'Épître aux Hébreux prêche très bien, évidemment. Et quand on est tenté, elle dit, l'Épître aux Hébreux, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Mais qu'il est difficile de prier quand nous sommes dans la tentation. Parce que déjà notre esprit est sous anesthésie. Et nous n'avons pas les réflexes, peut-être pas la force. C'est pourquoi il faut parfois lire l'Évangile, lire les psaumes, et laisser la parole casser la carapace pour dire « Au secours, Seigneur, secours-moi dans ta miséricorde. Amen. » Vous savez, un petit cri, on ne peut pas attendre des grandes prières, mais Jésus attend-il des grandes prières ? Si, des prières persévérantes, il attend un cri, au secours Seigneur, le malin est en train de me séduire, de me toucher. Avez-vous remarqué que Jésus a été tenté après son baptême ? Après avoir reçu le Saint-Esprit ? Après qu'il ait vu le ciel s'ouvrir au-dessus de lui, après avoir entendu la voix de son Père, lui dire « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt, dit l'évangile de Marc, aussitôt, après le baptême du Saint-Esprit, la voix du Père, le ciel ouvert, aussitôt, le diable est venu. Dans les moments de bénédiction, le diable choisit ces temps-là pour nous tenter. Mais pas que le diable, Dieu aussi. Vous avez remarqué cette parole un peu étonnante ? Il a été poussé. poussé par l'Esprit. Alors que là, qu'il était vraiment dans magnifique bénédiction. Il a été poussé par l'Esprit et le diable l'attendait dans le désert. Mais, frères et sœurs, après son baptême, après le Saint-Esprit et la voix du Père, Jésus était fort. Alléluia. Voilà. Et on peut en déduire quelque chose pour nous. On peut en déduire, c'est ce qui me console, Satan nous attaque. Mais nous avons reçu juste avant des grâces pour repousser ses coups. Amen. Dieu ne nous livre pas comme une proie facile devant le lion rugissant. Il nous arme comme Jésus a été armé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faut-il dire même, je vais oser le dire, les tentations les plus extraordinaires sont peut-être réservées aux meilleurs des enfants et des serviteurs de Dieu. Peut-être que les tentations extraordinaires sont réservées pour les héros de la foi. Parce que quand je lis Abraham, quand je lis Moïse, Jérémie, l'apôtre Paul, je me dis, quelles tentations ils ont eues. Mais ils avaient reçu de Dieu pour être forts, le bouclier, les armes de Dieu. Et dans les temps de nos plus grandes forces, eh bien là, je crois que nous sommes dans la capacité de résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Amen. Jésus a épargné à ses apôtres la tentation au début du ministère. Ils étaient tout feu, tout flamme. Ils étaient tout contents. Avec des propos parfois qui tombaient mal. Mais enfin, le Seigneur, j'ai l'impression, il leur a épargné des tentations. Mais les tentations sont venues au bout d'un certain moment, avec les temps de fatigue, quand le diable a dit à Jésus, enfin c'est Jésus qui l'a dit, Satan vous a réclamé. Ah, vous n'avez pas que des miracles, vous n'aurez pas que le bonheur et la facilité, Satan vous a réclamé. Et c'est là qu'il faut dire, délivre-nous du mal, Seigneur. Au début, c'est vrai, je reconnais, je vous l'avoue, je n'avais pas les combats que j'ai aujourd'hui. Ils se sont multipliés par 100, sans exagérer. Mais il y a des raisons que je connais, que je ne connais pas bien, qui sont devant nous, qui sont avec nous, je ne sais pas. Satan vous a réclamé parce que les apôtres allaient porter dans le monde entier l'évangile qui va bouleverser l'univers. C'était normal que Satan à l'heure agisse. Regardez quand Paul a été élevé au troisième ciel. Un ange de Satan est venu, permis par Dieu, comme une écharne, comme une épine, pour le souffleter. Partout où il allait, clac, 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 partout. Embûche sur embûche, naufrage, haine des frères, abandon des frères. Il a connu tout. Parce que il fallait qu'il dise « Sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse ». Jésus, je ne vois pas qu'il a été tenté avant son ministère. Est-ce qu'il était tenté quand il était dans l'atelier de son père adoptif Joseph et qu'il faisait des poutres? Est-ce qu'il a été tenté quand il portait chez les clients les poutres de bois? Je ne le vois pas dans la Bible. Tout a commencé au Jourdain, avec son baptême, son obéissance et le commencement de son ministère. Et je crois vraiment que lorsque nous commençons un service pour Dieu, la tentation, l'épreuve arrive. Et je crois aussi que lorsque nous finissons quelque chose pour Dieu, la tentation et l'épreuve arrivent. Parce qu'il ne faut surtout pas que pour le diable, on commence. Et si on commence, il ne faut surtout pas qu'on finisse. C'est vrai ? Mais il y a cette belle parole du psaume 121. Il gardera tes départs et tes arrivées. Il sera au début de ce que tu fais, il sera à la fin. Il gardera ton parcours, il sera avec toi chaque jour. Amen. C'est réconfortant. Oui, c'est un ennemi qui fait tout ça. En silence, il nous voit occupés au royaume, il nous voit occupés avec les gens, il nous voit occupés à faire du bien. Et il voudrait, en nous bloquant, priver tout un peuple derrière nous. Je pense que je dois être, ce n'est pas un galon que je me donne, ce n'est pas une gloire que je me donne, ce n'est pas une auréole que je me donne, mais je crois que c'est logique, c'est dans la logique du royaume des ténèbres de m'arrêter pour que d'autres ne viennent pas à la connaissance du salut. Ça fait partie de la règle du jeu pour le diable, bien sûr. Priver tout un peuple. Je remarque dans ma propre vie et dans la Bible d'abord que l'œuvre du diable n'est pas loin de l'œuvre du Saint-Esprit. Quand l'Esprit agit, le diable agit. Quand le diable agit, l'Esprit Saint est là. Amen. C'est réconfortant. L'un provoque l'autre. Au Jourdain, alléluia, le diable après. Mais nous avons tous reçu du Saint-Esprit, nous avons la parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez quand vous êtes découragé, que vous, la Bible vous paraît impénétrable, imperméable, compliqué. Résistez et méditez toujours attentivement. Et en méditant, vous résistez au diable. Quand vous êtes parfois fatigué de prier, parfois vous n'avez pas le cœur à prier, parfois vous lâchez un peu ce combat, eh bien résistez avec persévérance et priez encore plus. Amen. C'est ça, résister. Ça ne veut pas dire mettre les poings en avant. Ils ne voient même pas votre poing. C'est résister en lisant, résister en priant. Et je pense que si vous transformez les attaques du diable en affermissement, le diable se lassera. Regardez avec Jésus. Plus ça allait, plus Jésus était ferme et il citait la parole, il était déterminé, il est parti. Et si nous nous restons bien affermis sur la parole, il partira en attendant une occasion plus favorable. Demain, peut-être, là, en regardant sur Internet, avec une compagnie peut-être pas très bien, dans des relations pas très justes. Là, il va revenir. Mais je vais terminer en posant une dernière question. Pourquoi Jésus a été tenté ? Il n'avait pas besoin de prouver qu'il était vraiment tout le Fils de Dieu, amour pour son Père. Nous, il faut qu'on le montre, mais lui... Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Il a été tenté pour être semblable à nous en toutes choses. » Il fallait qu'il soit tenté. Il fallait. Pour montrer qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Amen. Pour montrer qu'il est venu vaincre. Il a fallu. Épître aux Hébreux. Donc, c'était utile. Vous avez entendu ? C'était utile, c'était essentiel, c'était voulu de Dieu. D'ailleurs, il a été poussé par le Saint-Esprit. Est-ce que je peux vous dire ce matin que nos tentations sont utiles ? Je peux vous le dire ? Ben, c'est fait. Nos tentations sont utiles pour former, nous former, pour le travail, pour Dieu. Pour nous permettre de connaître notre faiblesse. Sinon, on serait tête en l'air. Et pour nous permettre de réaliser notre besoin de Dieu chaque jour. Et les afflictions, vous le savez, produisent la patience. Et la patience produit la persévérance. Et la persévérance produit l'espérance. Alléluia. Il y a un travail de Dieu à travers la tentation. Vous connaissez ce verset ? Bienheureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Il recevra du Seigneur la couronne de vie. Je crois que c'est ainsi, je ne peux rien inventer. Je crois qu'il nous a fallu la tentation, l'épreuve, pour nous conduire vraiment dans le chemin étroit, tout à côté de Jésus. Il nous fallait cette tentation pour être plus solide. Et peut-être pour secourir ceux qui sont tentés, pour secourir ceux qui sont dans l'épreuve. Martin Luther disait, il y a longtemps, d'après le psaume 119, il y a trois moyens de fortifier le serviteur de Dieu. Trois moyens. La prière, méditation des Écritures, tentation. Ne dites pas amen. C'est dur quand même. Oui, dit-il Luther, Martin Luther. Regardez David comme il se plaint de tous les ennemis qui l'entourent, tous les oppresseurs qui bousculent, tous les obstinés, tous les rebelles qu'il doit supporter. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il porte la parole de Dieu. Mais ça fait de David un homme qui avait quelque chose à dire. Amen. Quand on lit les psaumes, on sent que ce n'est pas de la poésie écrite dans un bureau. Ça se passe dans le désert. Amen. Voilà la tentation. Eh bien, ce sera mon point final. Jésus a été conduit dans la tentation du désert pour être semblable à nous. Nous sommes conduits dans le désert de la tentation pour être semblables à lui. Amen. Mais, nous n'avons pas confiance en nous. Oui ? Oui ou non ? Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, Seigneur. Et s'il faut que nous y soyons, s'il faut que nous passions par là, nous te disons, Seigneur, délivre-nous du mal. En grec, du malin. Et puis, Seigneur, merci parce que tu peux secourir tous ceux qui sont tentés. Je le crois. C'est écrit, Hébreux. Et puis, Seigneur, toutes nos tentations, tu les as connues. Alors nous pouvons regarder avec assurance au trône de la grâce pour être secourus. C'est beau. C'est très beau. Et puis, Seigneur, un dernier point. Ce n'est pas à nous que le diable en veut. Qu'est-ce que nous sommes ? Ce n'est pas à nous qu'il en veut. C'est à toi. C'est au Seigneur. Alors, Seigneur, défends-nous. Entoure-nous. Quand il frappe à notre porte, ouvre la porte, Seigneur, afin que le diable sache que là-dedans, ce n'est pas vide. C'est rempli de toi. Amen. Nous prions le Seigneur, notre Dieu. En arrivant vers la fin de ce culte, nous voulons vraiment te dire, délivre-nous du mal et donne-nous tes armes. Donne-nous la grâce qui nous tiendra debout contre vents et marées. Donne-nous des yeux éclairés pour voir. Donne-nous un esprit de discernement. Donne-nous, Seigneur, toujours le réflexe de la prière. Donne-nous de nous aimer les uns les autres pour ne pas laisser de place au passage du serpent au milieu de nous. Donne-nous de tenir nos pensées captives du Christ pour ne pas qu'elles soient des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes aux malins. Seigneur, purifie-nous du mal qui est un appui dans nos cœurs pour le diable. Purifie-nous des convoitises, afin qu'elles ne servent pas d'entrée aux malins. Seigneur, nous te disons, bénis et purifie ton Église, chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.